France Inter.
Ancien directeur des rencontres d'Arles et du musée de l'Élysée de Lausanne en Suisse consacré à la photographie, spécialiste de l'image contemporaine et directeur de l'Académie de France à Rome, Sam Stourdze a organisé les expositions de photos des rendez-vous de l'histoire de Blois, dirigé la collection Beau Livre des éditions Léo Cher et assuré le commissariat d'exposition consacré à Léon Levinstein, Charlie Chaplin, Federico Fellini ou au paparazzi. Il prépare l'ouverture le 28 février prochain à Rome de l'exposition Chromothérapie, pensée avec l'artiste Maurizio Cattelan. Cela se passera à la Villa Médicis, lieu magique où des artistes sont élus chaque année pour tenter de créer sans devenir fou dans des conditions dont la plupart d'entre eux ne jouiront plus jamais. Et comme 99% d'entre nous ne verront jamais non plus l'exposition sous-titrée « La photographie couleur qui vous fait du bien », le tandem de commissaires a eu la bonne idée de publier un catalogue sous le titre anglais « Chromotherapia, the feel-good color photography ». On peut donc voir les œuvres du XXe siècle exposées sur place si l'on est très chanceux jusqu'au 9 juin, et toute la vie sur papier ou internet. Car je tiens à ce que dans la 20e heure, on puisse s'enrichir de savoir, de désirs et de découvertes, où que l'on se trouve sur le globe. Les événements sont des prétextes à des choses plus larges, enfin vous le savez, chers et fidèles auditeurs, si vous me permettez de vous imaginer fidèles. Ce soir donc, avec un homme qui aime être à la croisée des disciplines et bousculer les attentes, nous rêverons d'Italie et de beauté, parlerons d'institutions, de Balthus, de couleurs, de kitsch et de chiens à perruque. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Sam Stourdze.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, ce qui m'est arrivé ce matin. J'étais à Rome encore avant de venir vous voir et de prendre mon avion chez un tailleur de pierre. Peut-être l'un des derniers tailleurs de pierre romains. On prépare un projet, on ouvre un nouveau jardin. Devant le parterre de la Villa Médicis, on va installer, selon la grande tradition médicéenne, des agrumes en pot. Et en Toscane, les agrumes en pot sont toujours posés sur une pierre afin de drainer les racines, sinon l'agrume meurt. Et cette pierre, elle est taillée. Et ce tailleur de pierre, nous montrait, on travaillait avec lui sur les modèles, et il va nous graver sur chacune de ces 20 pierres le mot qu'a composé une jeune poétesse qui viendra graver ce poème dans le parcours de devant la Villa Médicis. Et ça m'a fait rêver hier en y pensant et aujourd'hui en y repensant.
Et moi, ça me fait penser à une exposition magnifique que vous aviez faite à la Villa Médicis, que je n'ai pas vue non plus, mais dont j'ai eu le catalogue, et je le dis pour les auditeurs, puisque le catalogue est merveilleux, vous l'avez faite avec Jean Deloisy, et elle était consacrée aux pierres.
Histoire de pierre.
Beau, ce catalogue est magnifique.
Avec Jean Deloisy, les pierres nous ont beaucoup occupés. C'était une exposition qui allait de la pierre la plus ancienne, plus de 5 milliards d'années, jusqu'à la pierre la plus récente, celle inventée il y a quelques décennies. On se promenait d'une histoire géologique à une histoire d'art contemporain, avec des grands brassages et avec comme figure de référence le grand Caillois.
Évidemment. Quand on vit à la Villa Médicis, tout le reste n'est-il pas laid ?
Alors, vous savez, la beauté, c'est extraordinaire, mais la beauté peut vous agacer profondément parfois. Et donc, vous avez besoin de vous échapper de la beauté pour pouvoir la retrouver chaque matin. Mais c'est vrai que la Villa Médicis est certainement l'un des plus bels endroits du monde. Et la mission qu'on m'a confiée est finalement de faire partager avec le plus grand nombre possible cette beauté. Donc, j'ai été très triste à écouter votre émission.
Au contraire, c'est parce qu'il était très inclusif.
Mais vous m'annonciez que 99% ne viendraient pas voir l'exposition.
Mais par manque de moyens, pas par manque de désir.
En tous les cas, on les attend tous à Rome, effectivement. Alors, ils pourront lire le catalogue, mais on les attend tous à Rome, un jour ou l'autre.
Oui, tous ceux qui auront la chance d'y aller, évidemment. Mais j'ai dit ça vraiment parce que si on traite simplement d'une exposition à un seul endroit... sans pouvoir se l'approprier et y accéder d'une autre façon, c'est vrai que c'est très élitiste. Et voilà.
Absolument. Mais notre objectif est là, que 99% de vos auditeurs viennent nous voir.
Nous serons 600 000 demain à Rome. Voilà, j'espère que vous avez la place pour nous.
Extra, on vous attend tous.
Est-ce que vous avez noté une différence majeure entre les Italiens et les Français ? Est-ce que Cocteau avait raison quand il dit qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur ?
Oui, c'est vrai qu'ils disent qu'on râle un peu quand ils pensent à nous. C'est le Sud. On a quand même, nous, Français, cette dimension très, très méditerranéenne. Et cette Europe du Sud, elle n'est pas exactement la même que celle du Nord. Et elle est très attachante. Et puis, ils savent faire l'huile d'olive à merveille quand même.
Alors ça, c'est une excuse pour vivre à n'importe quel endroit.
Vous savez que dans les petits villages, il y a encore les pressoirs. Quand on a dans son jardin quelques oliviers, on fait sa récolte et on apporte ses olives au pressoir du village, le frontoio, et vous repartez avec vos bouteilles d'huile d'olive. Ça aussi, un peu comme le tailleur de pierre, ça me fait rêver. L'Italie, c'est le pays du localisme. Aujourd'hui, c'est redevenu à la mode. Ça a été très ringard pendant des années. Et puis là, on s'aperçoit de ses vertus, travailler en famille, avoir des plats de pâtes d'une région à une autre qui ne sont pas les mêmes, avoir des pâtes qui ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, c'est assez charmant.
Et alors en un mot, quel est votre plat préféré romain ?
Ah bah, à Rome, on mange plutôt la carbonara ou la gratia aussi. C'est finalement, la mer n'est pas très loin, elle est à 30 km, mais c'est plutôt la montagne, les Abruzzes qui sont pas très loin, la chasse qui vient inspirer la cuisine romaine. Et vous savez que dans cette idée-là, on a créé une résidence culinaire. Depuis 3 ans, se succèdent des chefs à la Villa Médicis qui font partie des résidents et des pensionnaires et qui viennent s'inspirer auprès des producteurs locaux. On oublie parfois que les Italiens sont les inventeurs du slow food et du kilomètre zéro.
C'est que tu as chaud, que l'été fut crescendo. Je te laisse mon colis pour soigner tes yeux sans eau, nourrir ce cœur aride d'un petit peu de salive et d'un zeste de mélo.
Je te promets sans colère, tu me verras plus retenir tous les fluides que j'ai en stock, les larmes de calèche. Je te crache mes efforts qui s'écoulent tels des saphirs sur ton corps encore amer.
Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'on est dégoûté. Quand je t'embrasse, je sens le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées.
Sentir le désir de nos odeurs si humides, je t'échange avec plaisir la bave perdue de mon cœur, tout le liquide et la sueur comme retenu pendant des heures que j'ai nommé élixir. Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'en est dégoûté. Quand je t'embrasse, le business de nos fluides qui s'éclaboussent sur le doux contour de nos bouches toujours mouillées. Mmh.
Eddie De Pretto et Juliette Armanet, Eau de vie, et c'est votre choix musical, Sam Stourdze. Et je crois que vous allez bientôt les voir en chair et en os.
Mais oui, les deux ensemble, quand ils chantent, ça nous envoûte quand même. Et les deux seront à Rome dans quelques jours, le 14 et le 15 février, avec un moment, le 15, à la Villa, absolument exceptionnel. On fêtera l'amour et l'amitié avec Alexandre Gauthier. On parlait à l'instant de cuisine. La cuisine est très présente à la Villa Médicis, entourée d'amis, au rand desquels Annette Messager, grand artiste, qui a dessiné pour l'occasion, et puis Juliette Armanet et Eddie De Pretto, qui, et l'un et l'autre, chanteront l'amour et l'amitié.
C'est pas mal, j'ai entendu parler de ces deux concepts. J'aimerais qu'on évoque un peu votre parcours afin de dresser un portrait de l'homme d'image que vous êtes. Vous avez étudié l'histoire de l'art et l'économie.
Oui, alors j'ai mis les deux souvent parce que ça n'a pas duré très longtemps, et l'un et l'autre. Je n'ai pas vraiment fait d'études en vrai. Maintenant, je peux le dire, pendant longtemps, il fallait le cacher. Mais non, je me suis pas attardé très longtemps sur les bancs de l'université. Mon premier grand diplôme, ça a été de faire la Villa Médicis comme pensionnaire, en quelque sorte.
Oui, parce que ça, vous l'avez été, ça a dû vous aider pour mieux diriger cette institution. Mais alors, avant qu'on arrive à la Villa Médicis, vous n'allez pas éluder le portrait de vous, Sam Stourdze, mais il n'y aura rien d'impudique, ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez quitté l'école assez tôt, mais vous êtes arrivé dans les salles d'exposition très tôt aussi, puisque votre première exposition, c'était à 25 ans.
Et oui, j'avais qu'une envie, c'était de travailler, et après avoir essayé deux, trois choses, j'aurais rêvé d'être éditeur, de travailler avec les livres. Mon premier job, j'avais un ami qui était éditeur, je rêvais qu'il me trouve un stage, et un jour il m'a appelé en me disant « j'ai pas un stage, j'ai mieux pour toi, tu vas écrire un livre, tu vas être le ghostwriter », en français je sais plus comment on dit trop bien ce mot-là, pour écrire...
Écrivain fantôme,
pour écrire la vie du couple qui a fondé de particulier à particulier. Voilà,
ça a été
mon premier petit job. Le livre n'a jamais été publié, mais j'étais jusqu'au bout de sa rédaction. Il doit traîner encore dans un tiroir. Et puis très vite, je suis passé à l'image avec l'envie de faire des expositions comme commissaire d'exposition. Le terme n'est pas le plus joyeux non plus. Hein. J'ai que des boulots avec des termes pas très heureux. Mais être commissaire, ce n'était pas mon inspiration première. Mais d'exposition et de faire dans la photographie, oui, ça me plaisait, mais comme indépendant. Voilà, je l'ai été pendant une douzaine d'années, ça a été des années extraordinaires.
Et alors, vous avez montré la photographe américaine Dorothea Lange, vous avez montré le photographe new-yorkais Leon Levinstein, et tous les deux font entrer le réel en noir et blanc dans un cadre. Est-ce que vous aimez le réel? Parce que votre père est sociologue, votre mère est psychologue, donc chez vous, on fait attention au dehors et au dedans.
Oui, absolument. Mais la psychologie et la sociologie, normalement, ne s'occupent pas trop d'images. Donc, je suis allé, moi, dans ce qui restait.
Non, mais parce que vous prenez le réel et vous mettez dans un cadre.
De libre. Mais la photographie a fait beaucoup ça. Et ça m'intéressait beaucoup d'être dans cette grande histoire de la photographie. Dorothea Lange, elle n'est peut-être pas aussi connue que ses photos, mais c'est vraiment la mise en image des raisins de la colère. On est dans les années 30. Et c'est une dimension quasiment politique. C'est ce qu'on appelle la Farm Security Administration sous le gouvernement de Roosevelt, et cette idée que on va voter des dépenses publiques en convainquant le Sénat que l'Amérique est dans un état désastreux, et pour ça il y a une agence qui se crée et qui envoie des photographes pour documenter l'état de crise de l'Amérique. Ça, ce genre d'histoire me fascinait. C'est vrai que j'ai travaillé des années sur son œuvre, ou sur celle de Tina Modotti, qui se retrouve au Mexique au moment de la révolution culturelle. Et vous savez, les photographes ont cette capacité à capturer en une image à la fois une grande esthétique, mais aussi des moments d'histoire. Je me souviens d'un grand débat sur une photographie de Tina Modotti qui montrait de manière très moderniste un bout de machine à écrire et un texte juste tapé. Et dans un colloque, un historien historien rappelait alors ses amis historiens de l'art en disant « Vous émerveillez devant cette image, mais n'oubliez pas qu'en regardant ce bout de texte, on comprend que l'amant de Tina Modotti était sur le point de déclencher la révolution à Cuba et que c'est pour ça qu'il a été assassiné. » Donc voilà, faire lire les images, être dans le réel, dans le documentaire, c'est ce qui m'a intéressé pendant longtemps, ça change un peu.
Et vous aimez aussi ceux qui détournent et contrôlent l'aspect du réel et les images fixes d'un homme connu pour ses images animées.
I feel I've always been very popular in France. And...
Vous m'avez toujours aimé en France.
And I wish I could express myself as I would like to. I was here 21 years ago, naturally. I've broadened somewhat and become more of a blonde. Nevertheless, it's so wonderful to be back in La Belle France, in Paris.
J'étais ici il y a 21 ans et j'ai peut-être quelque peu blondi, mais c'est vraiment magnifique d'être de nouveau de retour dans La Belle France.
Interview de Charlie Chaplin en 1952 sur l'ORTF. Sam Stourdze, vous êtes lié à lui, vous êtes lié à sa famille d'ailleurs avec tout ce que vous avez organisé autour de lui. Une exposition au Jeu de Paume, Chaplin et les images, une exposition à la Philharmonie, l'homme orchestre. Et quand vous étiez à Lausanne en Suisse, eh bien, il y a eu ces archives qui ont été confiées. Et les archives sont confiées par les héritiers pour 10 ans.
Absolument.
Mais qu'est-ce qui se passe quand tout le monde meurt et qu'une famille s'éteint ?
Ah bah, on verra pour 10 ans renouvelables.
Oui, mais s'il n'y a plus personne pour renouveler.
La famille Chaplin est une grande famille, il y a beaucoup de descendants. On est sûr que la continuité est assurée pour plus de 10 ans. Mais c'est étonnant d'entendre la voix de celui dont on ne connaît pas la voix. Celui qui s'est fait connaître pour être une image, il en avait conscience hein, quand il crée son personnage de Charlot. Il sait que c'est une image, à tel point d'ailleurs qu'à un moment, il intente un procès contre ses imitateurs. Il y avait plein d'imitateurs, dont un, et là ça devient too much pour lui, qui se fait appeler Charlie Chaplin.
Ah oui.
Et qui fait un remake du Kid. Et donc là, il porte plainte. Mais très dur d'essayer pour ses avocats de démontrer ce qu'il a inventé et ce qu'il peut copyrighter en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez copyrighter un chapeau melon, une démarche et une moustache ? Et c'est la photographie. Il y a un dossier juridique avec des photographies qui sont transmises à la cour pour montrer le personnage qu'il a inventé et dont il est l'auteur, donc le propriétaire en quelque sorte. Oui, Chaplin, ça a été une longue histoire d'amour. J'ai eu cette chance à un moment de rentrer à Paris dans le bureau des archives Charlie Chaplin. Elles sont à Paris et de nouer une relation de confiance qui est devenue une relation d'amitié. Et j'ai fait beaucoup de projets, expositions, livres autour de Charlie Chaplin. Il y avait 10 000 photographies dans ce fonds d'archives qui racontent la vie de l'un des plus grands créateurs du XXe siècle, l'homme certainement le plus connu après le Christ. Et dans certains pays, je pense qu'il est plus connu ou qu'il était plus connu que le Christ.
Waouh ! Vous le qualifiez de maître de la falsification du réel et soulevez le fait qu'il était très soucieux de son image.
Ah oui, soucieux de son image, il devait sa notoriété à une image, il en était très conscient. Et pour lui, son personnage ne pouvait pas parler. D'ailleurs, son cinéma est une espèce de mise en abîme de l'arrivée du parlant. Cette grande mutation, vous vous souvenez, 1936, les temps modernes, le cinéma parle hein, déjà depuis quelques années, mais Chaplin est encore muet. C'est quand on revoit le film, les seules paroles, puisque le film est synchronisé avec la bande-son, plutôt la musique, et de temps en temps, on entend des voix qu'à travers des machines, et des machines qui annoncent une espèce de réalité d'aujourd'hui, en quelque sorte. Le directeur de l'usine vient poursuivre ses employés jusque dans leur pause dans les toilettes, sur un écran qui s'allume, et dans ce cas-là, à travers l'écran, on entend la voix du patron. 36, la télé n'existe pas encore. Hein. Et donc Chaplin l'invente en quelque sorte. Ou bien la radio, on entend aussi des voix. Donc les voix ne passent que par la médiation de technologie, écran ou radio. Et souvenez-vous, à la fin du film, il va chanter, mais il fait un geste en ouvrant les bras et il perd les paroles de sa chanson. Il s'était écrit des antisèches sur ses manchettes. Il allait parler. Mais finalement, il va chanter sans qu'on comprenne ses paroles. C'est la fameuse chanson.
Oui, il dit n'importe quoi. Faux italien.
Une fausse langue qui ressemble à de l'italien. On comprend tout à fait ce qu'il veut nous dire sans comprendre les paroles. C'est quand même une mise en abîme. On entend bien sa voix, mais on ne comprend pas ses paroles. Il faut attendre le dictateur pour que Chaplin ou que Charlot parle. Et à ce moment-là, ça sera la mort de Charlot.
Il y a quelque chose de frappant quand on étudie un peu votre parcours, Sam Stourdze, c'est que déjà vous semblez ne pas avoir peur du labeur. Vous êtes à la croisée de plusieurs disciplines depuis longtemps. Vous aimez quand elles s'entrechoquent, et je dis bien entrechoquées car vous n'êtes pas contre un certain chaos, mais dans le bon sens du terme, un chaos maîtrisé. Et je pense par exemple à votre expérience de directeur des rencontres d'Arles, qui a duré 6 ans, c'est ça ?
Et oui.
Et vous faisiez parfois 35 expositions simultanément. C'était 8 ans de programmation d'un musée par an. Et ça vous désinhibait, justement, qu'en fait, il y en ait tant.
Mais je me suis tellement amusé à Arles avec une équipe extraordinaire, parce que pour arriver à livrer chaque année 35 expositions, il fallait être sacrément bien entouré. Et c'est un hommage que je voudrais rendre ce soir aux équipes d'une manière générale. Vous pouvez avoir les idées les plus folles du monde, et j'en ai quelques-unes des idées folles. Si vous ne travaillez pas avec une équipe exceptionnelle pour pouvoir les mettre en place, vous restez avec vos idées tout seul. Et je dois dire qu'à Lausanne, à Arles et maintenant à la Villa Médicis, c'est un bonheur de travailler avec ces équipes. Donc oui, à Arles, on a lancé des projets fous. On faisait les expos, mais régulièrement, on inventait les lieux pour accueillir aussi ces expos, parce qu'on n'avait aucun lieu et on allait construire un pavillon de bambou avec un architecte colombien extraordinaire, Simon Vélez, 1500 mètres carrés sur les bords du Rhône. Le bambou arrivait par container de Colombie et les douanes du port de Marseille ne voulaient pas laisser notre bambou colombien arriver en disant « Sept containers remplis de bambou venant de Colombie, on n'y croit pas !» Mais on y arrivait quand même à la fin, c'était très amusant.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Oui.
8,5 était un film dont je pensais qu'il pouvait pour moi être un libératoire sur certains problèmes de la création, de l'expression. Par contre, très heureusement, je m'aperçois qu'il ne m'a pas libéré du tout, parce que ces problèmes, c'est-à-dire la peur de ne plus se souvenir ce qu'est l'essence la plus secrète, la plus intime du film que je suis en train de faire, la peur de ne pas réussir à expliquer comme je l'ai envisagé, ce sont des peurs et des pulsions qui persistent même maintenant, qui sont présentes. Et je continuerai à raconter dans d'autres films également ce que c'est le drame heureux de qu'est la création.
Federico Fellini sur la RTS en 87 au micro de Christian Defay. Sam Stourdze, vous lui avez aussi consacré une exposition, Fellini, La Grande Parade. Tout à l'heure, vous parliez des archives de Charlie Chaplin. Et puis pour Fellini, c'est assez remarquable aussi, vous avez trouvé 25 000 photos inédites de plateau, puisque sur chacun de ses films, il y avait entre 2 et 4 photographes de plateau.
Oui, c'était incroyable. Ce qui était difficile avec Fellini, c'est par opposition à Chaplin. Chaplin, le fond était encore entre les mains de la famille. Fellini, tout était dispersé. Chaque film avait sa production et ses archives. Et c'est là où j'ai passé du temps à la Villa Médicis, 1 an et demi comme pensionnaire, à travailler sur ce projet-là. Les projets d'exposition que je montais à l'époque, c'était à peu près 3 ans de travail pour chaque projet, et là il fallait constituer le corpus. Je me souviens d'une vieille agence de presse dans Rome que j'allais voir régulièrement. Il avait des montagnes d'archives, Je me suis rendu compte à un moment que pour trouver ce qu'on voulait, il fallait poser les bonnes questions. Tant qu'on ne posait pas les bonnes questions, ça faisait des mois que je cherchais des photos couleurs sur la Dolce Vita. Je me disais que ça devait bien exister. J'avais retrouvé les photos couleurs de 8,5, alors que le film est en noir et blanc. J'en ai fait un livre par la suite. Je me disais, sur la Dolce Vita, ça doit bien exister. Je les cherchais partout. Puis à un moment, je vais dans cette agence et je demande simplement, au bout de la 10e fois, à mon interlocuteur, mais elles sont où les photos couleurs de la Dolce Vita? Il me dit, ah ben elles sont là. Et il m'a sorti une planche où on voit le baiser de Danita Ekberg et de Marcello Mastroianni, qui n'est pas un baiser dans la fontaine de Trévi. Il s'approche, mais il ne s'embrasse jamais. En couleur, c'était assez magique quand on trouvait ça.
Vous avez été vous-même, Marcello Mastroianni, avec à peu près 12 Anita Ekberg lors d'un carnaval à la Villa Médicis.
Mais qu'est-ce que vous êtes bien renseigné. C'est vrai qu'on avait relancé le carnaval et que j'avais décidé de me déguiser en Marcello Mastroianni. Oui, on devait être à peu près 12 Marcello. J'étais assez content parce que j'avais encore des cheveux vraiment bien, bien noirs, bien châtains à l'époque. Et j'avais trouvé un produit qui me permettait de les avoir un peu blanchis, bien coiffés en arrière. Et ma fille, qui avait 4 ans à l'époque, elle était en petite fille qui avait vu le miracle dans la Dolce Vita, petite robe blanche, ho visto il miracolo.
Extrait d'Armide de Lully par l'orchestre de la Chapelle Royale sous la direction de Philippe Erweg. Vous êtes, Sam Stourdier, le directeur de la Villa Médicis, aussi connue sous le nom de l'Académie de France à Rome, créée sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, alors ministre des Finances de Louis XIV en 1666, et installée depuis 1803 à la Villa Médicis, une villa du XVIe siècle. Où était-ce située avant ?
Elle a été dans plusieurs endroits, ça ne nous rajeunit pas, hein, les dates que vous nous donnez.
Plus non, mais nous y étions.
50 ans d'histoire, oui, absolument, je me souviens de vous avoir vu la première
oui,
fois.
J'avais une perruque.
Là-bas. Elle a bougé plusieurs fois, elle a commencé sur les hauteurs du Trastevere, donc de l'autre côté du Tibre, et puis elle était installée avant d'être à la Villa Médicis dans le palais Mancini sur le Corso, un très très beau palais, c'était une véritable vitrine de l'excellence française. Sauf qu'en 1793, quelques années après la Révolution, et surtout après que les révolutionnaires aient spolié les biens de l'Église, dans la ville du Vatican, quelques-uns en ont pris ombrage et ont cherché un symbole de la France à mettre à sac. Et ils sont tombés sur l'Académie de France, le palais Mancini, qu'ils ont complètement saccagé. Et quelques années plus tard, Napoléon, cherchant un nouveau siège pour l'Académie de France à Rome, a acheté, je dis bien acheté, la Villa Médicis. On a un acte de vente en bonne et due forme. S'il ne l'avait pas acheté, et il n'a pas toujours tout acheté sur son passage, Napoléon, nos amis italiens qui aiment particulièrement ce lieu se seraient empressés de le réclamer.
Vos modèles pour la Villa Médicis, c'est Sciences Po pour son ouverture sociale, le Centre culturel suisse à Paris pour son inscription dans sa scène locale et l'école de l'Adjli de Courtrajmet, accueillie par les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil pour son processus de recrutement non axé sur les diplômes.
Ah, c'est pas mal. Là aussi, hein, vous avez fait de l'archéologie parce que ça doit être des déclarations de début de mandat. Et vous savez que cinq ans se sont écoulés. J'ai rien à renier. Je suis assez d'accord. C'est vrai que j'avais pris ces différents modèles parce que j'avais envie que ça bouge, que ce lieu qui est un temple de la beauté, qui est une institution vieille de 350 ans, qui parfois est en proie à un certain immobilisme, soit un lieu vivant. J'ai dit quelquefois que les institutions, avant d'être des lieux, étaient des esprits, je le pense véritablement. Et aujourd'hui, une institution du 21e siècle, une résidence du 21e siècle, doit être ouverte sur sur la diversité sociale, ouverte sur les pratiques artistiques. Et tous ces exemples-là sont des gens qui ont su se décentrer, se décaler. Et c'est vrai qu'on les a pris en modèle et qu'on a créé comme ça les résidences pro. Par exemple.
Alors justement, j'aimerais qu'on en parle. Tout à l'heure, vous avez parlé des métiers d'art et de l'excellence française qui sont mis en valeur à la Villa Médicis avec la collaboration de plusieurs artistes, architectes que vous faites venir. Mais il y a aussi cet axe plus social avec les résidences professionnelles. C'est 300 étudiants en résidence pendant une semaine.
Oui, des étudiants, des élèves même, des élèves des régions de France qui sont élèves en lycée professionnel ou lycée agricole. Et on les accueille en résidence à la Villa Médicis pendant une semaine. 300 en même temps. Et en mai prochain...
Où dorment-ils ?
Partout dans la ville, vous savez, Rome...
Ah, dans la ville, pas que dans la villa.
Mais non, la villa devient leur point de ralliement, leur rendez-vous, leurs rencontres, les conférences, les ateliers qu'ils ont se passent à la Villa Médicis. On construit des tentes pour l'occasion. On leur sert 600 repas par jour, puisqu'à cet âge-là, ils mangent trois fois par jour.
600 fois par jour, comme on le sait.
Non, ils mangent deux fois... 300 fois par jour, ça fait 600. Et le petit déjeuner, c'est pas nous qui nous en occupons. Et ils sont ravis. Et on voulait s'adresser à des populations qui seraient peu allées à Rome avec leurs parents avant. Bah bingo, quand on fait les premiers statistiques, sur 300, 295 ne sont jamais venus à Rome. 5 étaient venus à Rome. Et à la fois, quand ils arrivent à la Villa Médicis, bah, ils sont comme le visiteur d'un jour, ils sont comme nous, les pensionnaires qui y habitons un an, nous, ceux qui avons la chance de vivre sur place, sidérés par la beauté. Et le choc de la beauté, quand vous êtes adolescent, ça peut aussi changer votre vie. On a tous souvenir d'un adulte qui vous fait découvrir un livre, un film, d'une rencontre forte à cet âge-là qui peut changer votre vie.
C'était laquelle pour vous ?
C'était laquelle pour moi ? Une rencontre avec Samuel Beckett. Quand j'ai découvert son œuvre, ça a été une bascule. Oui.
Quand Malraux m'a envoyé à la villa, il comptait sur moi pour apporter la culture française. Je me suis intéressé à mon travail et j'ai commencé par réparer la villa qui était dans un état épouvantable. C'était vraiment dégueulasse. Alors moi, j'aime la beauté et je me suis mis à remettre un peu de beauté dans cet endroit. On ne vous a pas dit que j'avais organisé les patins à roulettes ? On vous a dit. Ça, c'était extrêmement gai. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à faire du patin à roulettes. Ça, c'était mon introduction auprès des pensionnaires.
On entend un ancien directeur de la Villa Médicis, le peintre Balthus, en 2000 sur France Culture. Il y a eu des pensionnaires célèbres à la Villa Médicis, Samstourdze, Debussy, Bizet, Berlioz, Fragonard, Ingres. Reste-t-il des empreintes de Balthus ? Et la question, évidemment, je la pose de façon intéressée, puisque j'ai une idée de la réponse.
Oui, absolument. Balthus, il sera 15 ans directeur. Il lancera beaucoup de réformes et une grande rénovation. Il refera la villa de A à Z en termes de décor. Et toutes les patines sur les murs de la plupart des salons sont signés Balthus. Et on s'inscrit d'ailleurs depuis quelques années dans cette grande tradition de stratification d'intervention contemporaine. Et on a lancé un grand chantier qui s'appelle Réenchanter la Villa Médicis, où en 3 ans, on va avoir refait 21 chambres et salons avec du nouveau mobilier, en restaurant les décors Balthus. Peduzzi, qui avait été un grand directeur, avait fait beaucoup de mobilier aussi et de luminaires.
India Madhavi, qu'on a reçu à ce micro.
India Madhavi, donc là on l'a invité il y a 2 ans, Kim Jones, des architectes plus jeunes et moins connus sont venus créer des meubles, des tables, des fauteuils, des canapés, refaire des chambres, refaire des salons, et la villa redevient une formidable vitrine de l'excellence et des savoir-faire, de l'artisanat qui n'a pas toujours eu sa place aux côtés des grands arts.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Brown Sugar sur l'album Sticky Fingers des Stones, et je ne l'ai pas choisi de façon anodine, Sam Stourdier, puisque l'une de vos expositions était consacrée aux pochettes de disques photographiques, et notamment celle-ci, celle de Sticky Fingers.
Et oui, absolument, Total Records aux Rencontres d'Arles, plus de 250 pochettes de disques, toutes faites par des grands photographes, et qui racontaient à la fois l'histoire de la musique et l'histoire de la photographie, en exposant les pochettes originales au mur, parce qu'avec le CD, et je parle même pas de la dématérialisation aujourd'hui de la musique, on a perdu cet objet visuel qui raconte lui aussi le XXe siècle, le format carré de la pochette de disque. Elles sont signées des plus grands hein, artistes, de Andy Warhol à Robert Frank, de Guy Bourdin à Lucien Clerc. Ils ont tous signé des pochettes de disques.
C'est comme la matière sans matière. Des oiseaux sans oiseaux. Est-ce que ce sont des oiseaux ? Ce ne sont plus des oiseaux. Les oiseaux crient. Parfois, les oiseaux crient. Ils crient parce qu'ils sont des oiseaux, et c'est seulement parce qu'ils sont oiseaux qu'ils crient. Ils pépillent, le ciel est blanc. Je te parle, c'est à cause de moi. Si j'étais un oiseau, le ciel, je ne te parlerais pas. Parler, parler, on dirait qu'on est bonne. On est bonne à manger, manger, dormir, penser, parler. Il y a peu de verbes.
Laura Vasquez, qui était venue dans la 20e heure et qui lit un extrait de son livre Zéro, c'était en novembre dernier, et c'est aussi ce que vous avez choisi de faire découvrir aux auditeurs, Sam Stourdier, mais elle a été pensionnaire à la Villa Médicis.
Absolument. Et c'est une grande, grande poétesse. Et son dernier livre, Zéro, a été en partie écrit à la Villa Médicis. Tragédie lesbienne, histoire d'amour entre deux filles, avec des dialogues et surtout des silences, et une manière pour tous ceux qui ont eu la chance de l'entendre lire, et si vous ne l'avez jamais entendu lire, allez courir la voix. Et puis un petit scoop pour vous, puisqu'on parlait du tailleur de pierre et du poème qui sera gravé sur ces pierres, c'est Laura Vasquez qui l'a écrit.
Oh, merveilleux.
Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur menthe à l'eau, cherche du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo.
Ça fait 65 ans que j'attends une excuse pour passer Couleur Mentalo d'Eddie Mitchell dans l'émission. Ça y est, on a trouvé. Sam Stourdier, vous faites l'exposition à la Villa Médicis Chromothérapia, la photographie couleur qui vous veut du bien, du 28 février au 9 juin. Et vous en êtes le commissaire avec l'artiste Maurizio Cattelan. Et je crois que l'idée est venue des magazines Toilet Paper, donc papier toilette, créé en 2010 par celui que je viens de citer et le photographe Pier Paolo Ferrari. De quoi s'agissait-il ? Parce que c'est incroyablement graphique, ces magazines.
Très graphique, très inspiré de cette histoire de la photographie couleur, les héritiers en quelque sorte d'une rencontre improbable entre le monde de la publicité et Harakiri, grosso modo. Maurizio Cattelan, c'est l'enfant terrible de l'art contemporain que l'on connaît bien, mais il est passionné par les images et il avait envie de se livrer à ce jeu de commissariat et de revisiter l'histoire de la photo sur 120 ans. Vous savez que la photographie couleur, c'est un peu le parent pauvre institutionnellement. On la reconnaît qu'à partir des années 1970 et encore, il faut qu'elle soit dans une grande tradition documentaire. Ben là, on montre dans cette exposition que dès les années 20, on avait des photographes comme la redécouverte d'Yves Don Middleton, cette photographe anglaise qui, dès les années 20, années 30, photographie en couleur. Et cette couleur pas du tout documentaire, cette couleur pop, cette couleur parfois un peu de mauvais goût.
Vous aimez ça d'ailleurs, vous le disiez déjà dans Libération en 2014, quand on sort du culte de la belle image, ce n'est pas pour me déplaire. Là, il y a un kitsch assumé, je pense même à la couverture du catalogue Fuchsia avec un bébé chat blanc sur trois coussins satinés.
Absolument.
Et on peut pas être triste devant ça.
Mais vous ne le connaissiez pas, Walter Chandoha, grand photographe des chats. Il a vendu des millions de livres dans les années 70 en photographiant des chats sur fond psychédélique. Et donc, c'est une vraie redécouverte dans cette salle d'expo qui s'appelle en reprenant ou en traduisant directement une expression anglaise, pleuvoir, chien et chat, et on confronte Walter Chandoha, le grand photographe des chats, et William Wegman, le grand photographe
des chiens,
les fameux chiens à perruque
de votre édito. En introduction, ou parfois en imperméable, parfois sous des feuilles, c'est d'une poésie folle, parce qu'ils ont des corps d'humains. Ils sont habillés en humains, ces chiens, ce sont ces bras.
Exactement. Vous savez que 15% du trafic internet quotidien, ce sont des échanges de photographies de chats. Donc nous aussi, on voulait notre part du gâteau.
Ah bah oui, mais je suis peu étonnée. Et pas de chiens ?
Ben non, il y a un peu moins en chien. Désolé, les chats, ça marche mieux, mais d'une manière générale, les animaux domestiques sont carton assuré.
Il y a beaucoup d'animaux dans cette exposition, notamment Harold Edgerton, mon magnifique perroquet, des homards chez Yvonne Middleton, des pastèques futuristes aussi chez Erwin Blumenfeld.
Absolument. Et à chaque fois, ça dialogue en écho avec la production Toilet Paper de Maurizio Cattelan et Pierluigi Ferrari. Mais c'est une expo sérieuse qui traverse 100 ans d'histoire, qui continue autour de la représentation des femmes fatales, les grands Guy Bourdin et Hiro, à la fois une vision très masculiniste.
Hiro très magritien aussi.
Et très magritien, absolument, très juste, et pondéré par des Juno Calypso ou Adriane Raquel qui rejoue elle-même cette mise en abîme de la représentation féminine dans une esthétique très, très glamour.
Vous mettez autant de musique à cause de quoi ?
Je le fais surtout pour les mannequins. J'ai l'impression que ça remplace l'obscurité pour un acteur, pour un comédien au théâtre.
Et il a surtout une imagination, mais débordante. Bourdin nous a dit un jour, un matin, je voudrais des mouches mortes, des guêpes mortes, des papillons morts. Et lui, toute son idée, c'était d'avoir juste sur le visage un merveilleux chapeau, d'avoir tout d'un coup une dame avec trois mouches.
Une beauté attire les mouches comme une charogne. Mais c'est pas par méchanceté. D'habitude, les mouches vont sur la charogne, elles vont pas sur des beautés, c'est tout.
Documentaire sur Guy Bourdin, Un certain regard, la photo et la mode, en 1967 sur l'ORTF. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Sam Stourdze, l'exposition fait la part belle aux femmes fatales, au rouge à lèvres, au maquillage, aux ongles laqués, à tout ce qui est très graphique. Il y a aussi des artistes femmes et des femmes cadavres dans des couleurs pop, avec Juno Calypso par exemple, où je pense au corps fétichisé d'Adrienne Raquel. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer sur un des artistes que vous présentez, Miles Aldridge et la nourriture maltraitée, le surréalisme de Sandy Skoglund, les choses fondues d'Arnold Odermatt?
Il y en a beaucoup des femmes dans cette exposition, et pas que cadavres, elles sont bien vivantes.
Elles
sont bien vivantes. Rue Sosaï, on pourrait terminer avec elle, puisqu'elle termine l'exposition dans cette esthétique complètement pop, s'intéressant au modèle noir et les photographiant dans la grande tradition des grands photographes africains de studio que l'on connaît tous, mais cette fois revisitée en couleur. C'est parfaitement joyeux. Cette exposition vous veut du bien, c'est son sous-titre.
C'est vrai qu'elle est très joyeuse. Merci beaucoup, Sam Stourdze.
À bientôt.
J'espère. L'exposition Chromothérapie, la photographie couleur qui vous fait du bien, sera du 28 février au 9 juin à la Villa Médicis à Rome. Je rappelle qu'il existe un catalogue homonyme, mais en anglais. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Fabrice Desmaz.